Alors, on va continuer notre parcours. Hier, nous avons abordé les dix paroles données par Dieu au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et on a vu comment il y avait une logique entre chaque parole. L'interdit d'idolâtrie jusqu'à « tu ne convoiteras pas ». Donc il y a les paroles qui concernent notre relation à Dieu, et puis il y a ces paroles qui concernent la relation au prochain. Et puis à la charnière, il y a la sanctification du temps et de l'espace à travers le sabbat. Le sabbat, qui est cet espace de gratuité que nous on célèbre de façon accomplie grâce à l'Eucharistie. L'Eucharistie nous donne d'entrée dans l'action de la grâce. L'Eucharistie nous réarticule, nous accorde. Les instruments ont besoin d'être accordés. Eh bien, l'Eucharistie nous accorde à l'amour de Dieu pour aimer notre prochain. Alors on a quand même compris, à travers ces 10 commandements, la nécessité d'être sauvé. Le « tu ne convoiteras pas » n'est pas si évident que cela. Et on voit qu'on a besoin, de la grâce de Dieu, et une grâce qui nous rejoint intimement. D'où l'événement de l'incarnation. Dieu se fait chair pour que la chair puisse être divinisée. Dieu vient épouser toute notre humanité à tel point que tout ce qui concerne cette humanité, nos pulsions, nos fantasmes, nos désirs, tout ce qui concerne notre humanité concerne aussi Dieu. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers les psaumes. Les psaumes sont cette prière qui intègre toutes nos passions, toutes nos émotions, qui font mémoire de réalités heureuses comme de réalités difficiles dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de Jésus, parce que Jésus a prié chacun de ces psaumes. Alors là, on peut être parfois face à un paradoxe quand on exprime à travers un psaume la colère, quand on exprime les mésententes, etc., fracasse la tête de mes ennemis. Il y a comme un paradoxe que l'on éprouve, et ce paradoxe est celui du salut. Le fait de pouvoir remettre tout cela à Dieu. Donc les psaumes représentent cette prière à travers laquelle on fait de tout ce que l'on vit un lieu de dialogue avec le Seigneur, un lieu où Jésus lui-même vient prier à travers nous. Et donc c'est de cette manière-là aussi que l'on réarticule nos affections, nos passions, notre sensibilité, etc. Alors aujourd'hui, on fait un pas de plus, on entre dans l'Évangile. Alors on va passer d'une montagne à l'autre. Avec les 10 commandements, on était au mont Sinaï. On était en Égypte, on venait d'être libéré d'esclavage dans le désert au mont Sinaï, et là on arrive sur une autre montagne, une montagne un peu plus verdoyante, autour d'un lac. C'est le mont des béatitudes précisément. En Galilée, donc on va se trouver sur cette montagne. Donc c'est le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. Après avoir appelé ses premiers disciples, les 4 premiers disciples, après avoir opéré quelques guérisons, il y a une foule qui se rassemble autour de Jésus. Et Jésus emmène ses disciples sur une montagne. Donc vous avez Jésus au sommet de la montagne qui s'assied, comme le fait le maître en général, il s'assied. Ça veut dire qu'il s'assied sur la chaise de Moïse. En fait, il va commenter la loi. Et donc c'est la position que prend le maître, donc le maître de sagesse qui s'assied. Vous avez les disciples autour de lui, et puis un peu plus loin les foules. Alors à la différence du mont Sinaï où le peuple était resté à distance, il n'y avait que Moïse qui s'était approché de Dieu, parce que s'approcher de Dieu, ça fait peur. D'ailleurs c'est ce qui est dit en Exode, tu ne peux voir Dieu sans mourir. Alors pourquoi est-ce que voir Dieu conduit à la mort? Parce que voir l'éternité, voir l'amour éternel conduit aussi à voir notre limite et à éprouver jusqu'au bout cette limite. Et donc il fallait préparer, il fallait l'événement de l'incarnation pour voir Dieu. Après, il y en a qui ont été un peu plus entraînés pour cette vision de Dieu. Moïse, entre autres, il a vécu pas mal de combats pour se rapprocher un peu plus de Dieu et pour être cette médiation entre lui et le peuple. Là, on est dans un tout autre contexte. Dieu se donne à voir, il se donne à entendre, il se donne à contempler. Donc il se fait proche, Dieu se fait proche, et la première chose que Jésus dit en prenant la parole, c'est « heureux ». « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Il n'est pas dit « il faut être pauvre pour être heureux ». Il est d'abord dit « heureux ». Cette béatitude qui consiste assez simplement à contempler Jésus. Jésus se donne à nous. Et c'est le premier motif de notre bonheur. Alors que veut dire être pauvre en esprit? C'est une bonne question. Être pauvre en esprit veut dire être disponible. Être disponible à la grâce de Dieu. Celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît que tout lui est donné. Cette basilique, elle nous est donnée. Cet espace de prière nous est donné. Les sœurs nous sont données. Le prêtre nous est donné, votre vie vous est donnée. Tout ce qui vous entoure, si vous y réfléchissez un peu, tout cela vous est donné. Et quand on aborde la réalité comme un don, on passe du royaume terrestre au royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas simplement après la mort. Après la mort, on découvrira ô combien que tout était don. Mais avant cela, on peut déjà précéder un peu cet après la mort et découvrir au fond que notre vie, que tout ce qui nous entoure est de l'ordre du don. Et donc, dans la journée, on peut passer du royaume terrestre au royaume des cieux. Vous pouvez être dans votre studio, dans votre chambre, dans votre appartement, et être dans un royaume terrestre, vous essayez de tout contrôler, de tout maîtriser, et puis, etc. Et puis, de temps en temps, être dans un royaume des cieux, où vous percevez, où vous êtes plus dans la contemplation, etc. Et on voit comment ces deux royaumes sont un peu en combat, dans notre cœur, comme ces deux royaumes sont en combat dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de Jésus. Jésus, il est venu témoigner de quelle royauté? Est-ce qu'il est venu témoigner d'une royauté politique puissante où le peuple d'Israël sort victorieux d'un point de vue politique? Ou bien est-ce qu'il est venu témoigner de cette royauté de l'amour qui consiste à donner, à faire de sa propre vie un don pour toute l'humanité. Quelle est la royauté que l'on vit? Donc être pauvre en esprit, c'est entrer dans cette béatitude qui est le don de Dieu lui-même en Jésus pour recevoir toute réalité comme un don. Donc vous comprenez là pourquoi les pauvres en esprit reçoivent le royaume des cieux en partage. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, je reviens quelque peu sur la thématique qui vous a été donnée. Je ne sais pas si vous avez eu les petites feuilles d'annonce de cette neuvaine. Mais donc, il me fallait parler du « choisi dès avant la fondation du monde pour être saint et immaculé ». Le terme immaculé rejoint évidemment le mystère que nous contemplons jour après jour, qui est le mystère de l'Immaculée Conception, et nous dit bien que saint Paul, quand il dit que nous sommes choisis dès avant la fondation du monde, eh bien c'est pour être saints et immaculés. Nous sommes appelés à vivre de la plénitude de ce salut. Et les béatitudes, précisément, est ce mode de vie. Il s'agit de vivre de ce choix de Dieu, dès avant la fondation, d'entrer dans cette béatitude, qui fait que on reçoit toute chose. Les béatitudes est vraiment un commentaire de ce choix que Dieu fait de nous dès avant la fondation du monde. Alors quand on reçoit comme ça toute réalité comme un don, on accède à une certaine douceur. Et là vous comprenez la deuxième béatitude, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Recevoir tout de Dieu, et puis à la manière de Dieu, voir comment Dieu fait grandir la vie, eh bien, cela suscite en nous une forme de douce maîtrise par rapport aux réalités qui nous entourent. Donc, le don de Dieu nous donne un rapport à la terre qui est un rapport de douceur. Les doux possèdent vraiment. Hein. Ceux qui veulent maîtriser ne possèdent pas réellement. La terre a besoin de douceur. La terre a besoin de tendresse. La terre est de l'ordre de la création. Hein. Mais pour concevoir la juste douceur, pour concevoir la juste tendresse, eh bien, il faut voir à quel point la terre est un don de Dieu. Alors, une image de cette douceur, c'est évidemment Saint François. Hein. Saint François était particulièrement habité par cette douceur qui lui permettait d'avoir une énorme familiarité avec les créatures, avec la terre. Alors, d'où lui venait cette douceur? Mais précisément, de son union à Jésus, de la pauvreté dans laquelle il s'inscrivait. Saint François, c'est vraiment l'exemple typique de ce pauvre en esprit, alors de façon un peu radicale. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film qui représente un peu la vie de Saint François. Il y a un moment donné où il décide vraiment d'entrer à la suite de Jésus, et puis il enlève tous ses vêtements, donc il est vraiment tout nu. Donc c'est une pauvreté assez radicale. Et puis petit à petit, il va se laisser rejoindre à travers cette pauvreté par le Christ et recevoir toute chose comme un don. Alors il y en a qui le vivent de façon extrêmement significative, comme Saint François. Il est évident que les moines et les moniales, les consacrés, les religieuses, ont un rapport à la pauvreté de façon soit en termes de vœux, soit en termes de manière de vivre. Mais cette pauvreté est un conseil évangélique pour tous les baptisés. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être propriétaire, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Être pauvre en esprit, encore une fois, c'est recevoir toute chose comme un don. Est-ce que vous êtes suffisamment disponible pour vivre de vos propres biens comme d'un don de Dieu? Et ça veut dire aussi permettre à d'autres d'en disposer. Vous savez, les dons qu'ils nous ont faits, la propriété, l'objectif de la propriété, c'est d'être universellement partagé en fait. C'est la destination universelle des biens. Alors, ce partage universel, il se vit selon la vocation de chacun, d'accord ? Mais tous nos dons sont faits pour être partagés, et c'est ça qui nous réjouit fondamentalement. Après, encore une fois, chacun selon sa vocation et selon ses moyens. Alors, quand on possède la terre grâce à cette douceur, encore une fois, il ne s'agit pas de propriété, mais d'attitude profonde qui nous permet de contempler cette terre, de la recevoir, on ne peut qu'être affligé. Pourquoi ? Parce que cette terre, elle est marquée, vous vous rappelez, elle est marquée par le sang du frère. Elle est le sang d'Abel qui crie vers Dieu, qui crie vers Dieu. La terre, elle est marquée par nos actes mauvais. Elle est marquée par notre excès de consommation. Et donc, elle crie, elle est marquée par les injustices. Donc, quand on a une certaine familiarité avec la terre, eh bien, on est aussi marqué par son cri, qui s'exprime par exemple par le fait que y a des lieux où il y a de plus en plus de sécheresse, donc ça provoque des flux migratoires qui fait que le rapport à la nourriture pour ces populations devient aussi compliqué, etc. Donc il y a des déséquilibres qui attestent du cri de l'humanité et qui fondamentalement nous rejoignent dans notre réalité. On est fondamentalement tous liés. Donc quand il y a un déséquilibre quelque part, ça retentit à travers tout l'univers en fait. Tous les lieux d'habitation sont concernés. Les flux migratoires sont un exemple, mais il y a d'autres exemples de ça. Quand le pape dit tout est lié, c'est parce que la vie, elle est une. Qu'est-ce qui nous relie tous? C'est le don de la vie. Qu'est-ce qui nous relie avec la terre? C'est le don de la vie. Donc quand il y a un mal qui est fait, eh bien ce mal nous rejoint inévitablement, alors de façon plus ou moins directe. Évidemment, il y a des populations qui sont beaucoup plus directement touchées que d'autres. D'accord? Donc la douceur nous conduit inévitablement à l'affliction. Mais l'important, et c'est un peu un paradoxe, mais c'est un paradoxe qu'il faut apprendre à apprivoiser, à bien comprendre, cette affliction ne nous empêche pas d'être heureux. Comme chrétien, on a le droit d'être affligé, même plus que ça. Ce serait étonnant qu'on ne soit pas affligé par ce que l'on peut voir parfois autour de nous, mais le plus important, le plus important, c'est de demeurer dans ce don de Dieu qui fait que même si je suis affligée, je suis heureuse. Hein? Je suis heureuse parce que le Dieu est fidèle et que son don, le don de sa vie, est toujours d'actualité. Hein? Donc, plus profondément que l'affliction, hein, y a ce don de Dieu qui me donne accès à la consolation. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils seront consolés. Hein. Alors, après l'affliction, hein, parce que être affligé, c'est être un peu, vous savez, voilà, hein, être marqué par le cri de la terre. Hein, et c'est une marque qui peut nous peser. Il y a un pas de plus que l'on peut franchir dans les béatitudes, c'est le fait d'avoir faim et soif de justice. Vous savez, quand on est affligé parce que quelque chose ne va pas, ben, ça veut dire qu'il y a une injustice que l'on perçoit. Et comment est-ce qu'on se situe par rapport à cette injustice? En cherchant la justice. Et les termes sont très forts. Il ne s'agit pas simplement de chercher intellectuellement, de chercher superficiellement. Non, non, il s'agit d'avoir faim et soif de justice. Ce cri qui traverse la terre me traverse entièrement et fait que j'ai faim et soif de justice. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif de justice, encore une fois, ne nous empêche pas d'être heureux. Hein, parce que le don du bonheur est plus profond. Hein, le don du bien est plus profond que l'épreuve de l'injustice. Et rejoint mon désir de justice plus profondément que l'épreuve de l'injustice qui m'afflige. Eh bien, il y a un désir de justice qui me rend profondément heureux, hein, et qui devient pour moi source de consolation. Alors là, on est à mi-parcours dans les béatitudes. Hein. Je devrais pouvoir vous poser la question de savoir quelle est la prochaine béatitude. En tout cas, ce que vous commencez à percevoir, c'est qu'il y a une logique d'une béatitude à une autre. Donc on peut progressivement passer d'une béatitude à une autre. Alors après le fait d'avoir faim et soif de justice, il y a la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors le mot miséricorde est très très beau. Notre cœur se laisse traverser, certes, par la misère humaine, d'accord, hein, par la misère qui atteint la terre, miséricorde, notre cœur est traversé par cela, mais plus profondément que le fait d'être traversé par la misère, et du coup d'avoir faim et soif de justice, il y a un amour qui découle. Hein, plus profondément que la misère que je vois, et qui pourrait me donner de fuir en fait, hein, souvent on fuit la misère, eh bien je décide d'aimer. Un cœur miséricordieux, c'est un cœur qui se laisse traversé par la misère qu'il voit autour de lui, mais qui plus profondément, duquel plus profondément jaillit une source d'amour. D'accord ? Et cette source d'amour, elle vient de cette béatitude, elle vient de ce regard sur Jésus. Hein. Elle vient du fait que Jésus nous aime jusqu'au bout, et donc nous, on peut aimer jusqu'au bout. Hein. Et quand une personne est atteinte par la misère, eh bien je peux être compatissant, je peux être traversé par cette misère, mais je peux l'aimer, et cet amour va me conduire à avoir l'attitude juste, à me laisser inspirer par ce que je peux faire par rapport à ce qu'il vit, à ce qu'il traverse en termes de misère. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je me suis assez longtemps attardée sur cette béatitude, en fait, parce que on aurait plutôt envie de dire l'inverse. On est miséricordieux parce qu'on obtient miséricorde. Parce que le premier à nous faire miséricorde, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui nous donne d'être miséricordieux. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais quand on va à la confession, vous savez, on va demander pardon. Hein, évidemment, on est bénéficiaire, voilà, en principe, du pardon de Dieu, de sa miséricorde. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne l'éprouve pas toujours. Vous faites cette expérience comme moi, c'est que parfois on ne l'éprouve pas toujours. Hein, ou bien dans notre prière, hein, quand on demande pardon, et la bonne question à se poser, c'est finalement quand est-ce qu'on ressent cette miséricorde? Eh bien quand on la pratique soi-même. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Le pardon de Dieu, on le reçoit évidemment, mais on le fait nôtre lorsque on le met nous-mêmes en pratique. D'accord ? Donc la miséricorde de Dieu, hein, on l'éprouve, on en devient bénéficiaire quand on le vit vis-à-vis d'autrui. Et il y a là quelque chose de très beau. Hein. Vous vous rappelez, par rapport à la loi, il y a les commandements qui concernent l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et Jésus dira, hein, de ces deux tables, que l'amour du prochain, aimer le prochain comme soi-même, c'est semblable au fait d'aimer Dieu, en fait. On ne peut aimer le prochain qu'en aimant Dieu. Et c'est en aimant le prochain qu'on aime Dieu. En fait, l'un et l'autre sont infiniment liés. Eh bien, ce lien, il se trouve exprimé ici, à travers la miséricorde. Alors, si on fait un pas de plus, après la miséricorde, hein, je ne sais pas si dans votre cœur jaillit une béatitude, dans la logique, quel serait le pas suivant à poser ? C'est la pureté. Hein, il est dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Si plus profondément que la misère que je vois et que ma propre misère, hein, je me laisse traverser par l'amour de Dieu, eh bien cet amour de Dieu, il vient me purifier, hein, il vient me simplifier. Il vient certes me consoler, mais il vient éveiller en moi le désir de m'ajuster perpétuellement à la grâce de Dieu. Alors, les cœurs purs qui voient Dieu, vous savez, c'est pas si exceptionnel que ça. Que veut dire voir Dieu ? Voir Dieu, très concrètement, c'est avoir une intention droite, hein, chercher à faire le bien, aimer comme Jésus a aimé. Hein, c'est avoir le cœur simple et l'œil lumineux, l'œil saint, qui fait que le corps est lumineux, comme dit saint Matthieu, hein, dans ce qui suit. Hein, donc avoir une intention juste. Donc être de ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Quand on cherche à faire la volonté de Dieu, eh bien, on est sensible à sa grâce. On est sensible à sa grâce. Alors, on ne le voit pas aujourd'hui comme on le verra face à face, mais il s'exprime à travers sa création. Il s'exprime à travers les visages. Il s'exprime dans les situations difficiles. Hein, vous vous rappelez ce qu'on a dit ? Jésus est mort et ressuscité. Il n'y a pas une situation qui n'est pas déjà rejointe. Hein, la résurrection est plus profonde que la mort. Et donc cette résurrection, elle touche toutes nos situations compliquées et difficiles. Voilà. Hein, alors il faut un acte de foi, certes, pour le voir. Il faut parfois patienter, hein, pour que cette grâce se manifeste. Mais Dieu est fidèle. Et donc voilà, celui qui a un cœur pur, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors celui qui voit Dieu et qui cherche à faire le bien, hein, selon la béatitude qui suit, est un artisan de paix. Hein. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Hein. Être artisan, ça ne veut pas dire simplement voir la grâce, mais c'est faire grandir cette grâce, c'est faire grandir le bien, c'est faire grandir la justice, c'est faire grandir la charité quelque part. Donc on est artisan, on œuvre. Il ne s'agit pas simplement de voir et d'en parler, je peux vous en parler, mais ça ne vaut pas grand-chose. Le plus important, c'est d'en témoigner, en fait. C'est d'en témoigner en acte, hein, c'est d'être des artisans. Alors la béatitude dit qu'ils seront appelés fils de Dieu. Alors pourquoi est-ce que cette paix, le fait d'être artisan de paix, est lié à la filiation divine ? Parce que la paix, c'est l'unité. Est-ce que la paix, c'est faire grandir l'unité ? Pas une uniformité, mais faire grandir cet amour qui fait que chacun, on peut être nous-mêmes, mais on est unis, hein, on n'est pas dans la discorde. D'accord ? Donc, alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on est appelé fils de Dieu ? Parce qu'on ne peut le faire que grâce à l'unité du Fils et du Père. Hein, parce que Jésus est témoin de l'unité avec son Père, avec l'Esprit-Saint. Et c'est cette unité-là, une unité dans l'amour, qu'on est appelé à faire grandir. Donc être artisan de paix, en fait, c'est renaître de l'amour. Donc c'est en cela qu'on devient de plus en plus fils, de plus en plus enfant de Dieu. Alors jusqu'ici, ça va. Vous savez, dans l'Écriture, il y a toujours un moment où ça se gâte un peu. Il y a toujours un moment où ça devient un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Donc, après les artisans de paix, il y a heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Quand on est artisan de paix, hein, on cherche, ce qu'on cherche au fond, c'est d'exercer la vertu de justice. Hein, être juste, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû et au prochain ce qui lui est dû. Hein. Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de justice. Hein, on voit comment les situations d'injustice provoquent la discorde. Hein, donc être artisan de paix nous conduit à être attentif à cette justice. Alors pourquoi est-ce que la justice, cette recherche de justice, cet établissement de la justice est lié à la persécution? Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais hier on a parlé des prophètes. Hein, les prophètes qui sont le garant de l'alliance, hein, qui rappellent au peuple qu'il faut être fidèle à cette alliance. Et ils dénoncent l'infidélité. Il dit, Israël, là tu n'as pas été fidèle, tu vas être conduit en exil. Si tu n'es pas fidèle, tu ne peux plus habiter la terre promise. Et donc voilà ce qui t'arrive. Donc on voit comment les prophètes, non seulement annoncent la fidélité, dénoncent l'infidélité en parole, mais aussi à travers leur vie. Hein. Ils vont prendre sur eux la contradiction. Hein. Vous connaissez... le chant du serviteur souffrant, par exemple, hein, nous montre bien que ce serviteur, le serviteur, c'est vraiment le prophète fidèle. C'est vraiment celui qui est au service de Dieu. Eh bien, comment il prend sur lui? Il prend sur lui le péché de l'humanité. Hein, et le Christ accomplira, évidemment, cette figure. Donc, celui qui cherche à établir la justice révèle dans les cœurs l'injustice qui habite dans les cœurs. Alors soit, deux options, soit la personne confesse cette injustice, hein, pour être davantage juste, entre dans une forme de conversion, soit elle s'endurcit. Et quand il y a l'endurcissement, ben à ce moment-là, le prophète, celui qui annonce la justice, va en souffrir. Donc heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors c'est assez beau, hein. Cette recherche de justice et qu'est-ce qui nous permet de chercher la justice jusqu'au bout? C'est précisément le royaume des cieux. C'est de dire, à partir du moment où on a conscience qu'on a tout reçu, eh bien, il est normal d'œuvrer pour la justice. Donc c'est pour ça que le royaume des cieux est à eux. Alors j'arrive à la dernière béatitude. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Il n'y a que l'amour de Jésus qui justifie ça. Il n'y a que l'amour de Jésus qui permet cela. Vous savez, suivre Jésus, évidemment, c'est venir à la messe, c'est se confesser, etc. C'est l'annoncer, c'est aller en mission, mais inévitablement, à la manière des apôtres, si on suit Jésus, on ne le suit pas à moitié. Il y a un moment donné où le suivre jusqu'au bout, bah, c'est le suivre jusque dans sa passion et jusque dans la croix. Hein, parce qu'être témoin de l'amour de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, laisse apparaître plus profondément que l'injustice, le péché. Et donc tout ce qui est décrit, les insultes, etc., c'est les péchés qui ressortent. Voilà. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie du chrétien, qui fait qu'à la suite de Jésus, il continue, avec Jésus, de prendre cette épreuve sur lui. Hein. Et c'est ainsi qu'il participe à la rédemption. Alors, il est dit heureux, mais il est dit encore plus, soyez dans la joie et l'allégresse. Alors ça, c'est pas si évident. Vous savez, nous, quand on voit arriver les embêtements, on a tendance à vouloir les fuir. Hein. C'est assez sûr. Eh bien, on voit comment cette béatitude, elle nous engage à suivre Jésus, mais jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui nous aide à aller jusqu'au bout? Uniquement par amour de lui. Tant qu'on est attaché à des réalités terrestres, à ce moment-là, on s'enfuit. On s'enfuit comme les apôtres avant la passion. Reste qu'on est après la résurrection. Et qu'après la résurrection, les apôtres n'ont pas fui. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage dans les Actes des Apôtres, où Jean et Pierre, qui ont opéré au nom de Jésus des guérisons, hein, auprès du temple, sont mis en prison. Puis il est dit qu'ils reçoivent des coups de bâton, quoi. Mais vraiment, ça ne devait pas être très agréable, donc des coups de bâton. Et puis le texte nous dit, et ils sortirent tout joyeux d'avoir été dignes de subir ce sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois que ça nous donne de réfléchir, hein, sur notre vocation de chrétien et de cet amour qui va jusqu'au bout. Il ne faut pas chercher les embêtements. Il faut pas, mais en revanche, ce qu'il faut chercher, c'est le pour lui. Hein, c'est la suite, c'est vraiment cette suite de Jésus, hein, qui par surcroît nous donne d'entrer aussi à travers cette béatitude, hein, dans le fait de porter avec lui les souffrances en vue de la rédemption, hein, participer au salut de Dieu. Et c'est ce salut qui nous conduit à l'Immaculée Conception. Merci, j'ai été un peu longue, donc je vous laisse vous préparer pour la messe. Alors demain, ce sera le Père d'Augustin qui viendra enseigner, et puis moi je vous retrouve après-demain.